tu te réveilles la nuit pour me chanter des idioties comme Oh, Rasputin, Oh, Marilyn, Oh, Monsieur Plume. Faites-moi monter sur la lune, faites-moi visiter Saturne, car je suis con comme la lune.
Explorer l'espace.
Oui, con comme la lune.
Découvrir des exoplanètes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette série d'émissions qui explore l'espace. Et aujourd'hui, nous, toujours en compagnie de l'astrophysicien Jean-Pierre Bibry, nous allons découvrir et explorer des planètes de plus en plus bizarres, excentriques, et partir à la recherche d'exoplanètes. Alors avant de partir plus loin que notre système solaire, nous allons faire une petite étape autour de notre Soleil, puisque chacun pense avoir une définition claire de ce qu'est une planète, finalement, comme on nous l'a appris à l'école. Et on se rend compte, Jean-Pierre Bibring, que nos définitions sont pour le moins à revoir et à réactualiser. Alors pour prendre un exemple, on a tous appris le nombre de planètes qui tournent autour de notre Soleil, les 9 planètes, et puis on apprend que Pluton risque de perdre son statut de planète, et on parle même d'une 10e planète fantôme.
Alors en fait, Pluton a même perdu déjà son statut de planète au sens où on l'entendait, c'est-à-dire que Pluton est resté toujours là où il est, mais on a changé un petit peu la signification de ce qu'on appelle des planètes. Vous savez, le mot de planète, qui est un mot grec, qui en grec veut dire astre errant, il provient du fait que quand vous regardez le ciel tous les soirs à la même heure, les étoiles sont à la même position, et que par rapport à ces étoiles, qui forment comme un repère absolu, on va dire, qui ne dérivent pas dans le temps, il y a un petit nombre de points qui se déplacent, qui ont l'air de se déplacer. Il y a des nuits avec lune, des nuits sans lune, des nuits où on voit Jupiter ou Vénus, et des nuits où on ne les voit pas. Et quand on les voit, ils sont toujours à une autre position. Et donc c'est ça qui a d'abord frappé les esprits, c'est que dans l'espace, il y a des points qui se retrouvent toujours à la même position, qui sont dans des positions relatives qui ne changent pas, et puis il y a quelques points qui se déplacent. Et donc planète veut dire astre errant, astre vagabond, astre qui se déplace par rapport aux autres. Et c'est comme ça qu'on a repéré les planètes. Et c'est intéressant parce que ce qui a caractérisé ces objets précisément dès le début, c'est leur mouvement, c'est leur place dans le ciel. Et c'est parce qu'on a essayé de comprendre ce mouvement, qu'est-ce qui fait que ces objets ne sont pas à la même position, qu'on a été amené à comprendre leur origine, leur formation, leur évolution. Et c'est ça qui a tracé l'histoire de l'astronomie, on peut dire, d'essayer de comprendre ce mouvement. Et c'est par le mouvement qu'on a été amené à se changer notre représentation du ciel globalement. Vous savez que jusqu'à Copernic, jusque donc à l'année 1543 exactement, parce que les planètes étaient repérées par le mouvement, mais que l'on ait considéré que au centre de tout, c'est la Terre, puisque quand on regarde la nuit, les étoiles, tout se passe comme si tout tournait autour de la Terre, le Soleil lui-même, dans la journée, tourne, semble-t-il, autour de la Terre. On a toujours essayé de représenter le mouvement de tous les objets dans un repère où la Terre serait au centre. Et ça en a été de même pour les planètes. On a essayé de faire en sorte que les planètes, elles aussi, tournent autour de la Terre. Et comme on avait peu de précision sur le mouvement de ces objets-là, peu ou prou, ça allait. C'est un peu plus compliqué que ça. Il a fallu inventer des mouvements des planètes sur des cercles dont le centre tournait autour de la Terre depuis l'Antiquité. Mais on a essayé de faire ça jusqu'au moment où, malgré le fait que c'est à l'œil qu'on repérait ces objets-là, Copernic le premier, mais qui en fait ne faisait que traduire ce que l'on comprenait à l'époque, c'est-à-dire le mouvement des objets, a proposé tout à fait autre chose, c'est-à-dire que ça ne soit pas la Terre, mais le Soleil qui soit au centre de tout cela. Et tout d'un coup, les planètes sont devenues des objets en orbite autour du Soleil. Ça a été, du point de vue conceptuel, tellement d'ailleurs hérétique que certains en sont morts même. Giordano Bruno a été brûlé pour cela, pour l'avoir proposé, et même proposé des choses encore plus, on peut dire, audacieuses. On reviendra là-dessus. Mais c'est le mouvement donc qui a été la clé de la compréhension réellement du mouvement, de ce qu'est l'évolution de l'univers. Et parce que après Copernic et avec Giordano Bruno, puis Galilée, puis etc., etc., il a fallu instruire ce procès de la Terre et du Soleil, c'est-à-dire qui est au centre, et que finalement le Soleil est gagné, on peut dire, quoique en fait ce n'est pas que la Terre tourne autour du Soleil, c'est que la Terre et le Soleil sont dans un mouvement relatif autour d'un même point qui est le centre de gravité du système. On a essayer de comprendre le mouvement des planètes dans une autre géométrie, mais toujours par le mouvement. Et en fait, c'est ça qui nous a biaisés jusqu'à très récemment. C'est-à-dire que les planètes ont été à la fois le départ et l'arrivée d'une réflexion sur le mouvement. Et on a essayé de comprendre ce que la différence entre les objets planétaires, le fait que Mars soit rouge, le fait que sur la Terre il y a la vie, etc., soit uniquement fonction de leur propre mouvement. Et en d'autres termes, que ce qui serait la source de l'évolution, ça soit la position de ces objets par rapport au Soleil, leur taille et leur distance au Soleil. Eh bien, encore aujourd'hui, quand on parle de planète dans le langage courant, on dit, en fait, sans le vouloir, qu'on parle d'un objet qui est en orbite autour d'une étoile, en orbite autour du Soleil. C'est-à-dire que c'est son mouvement autour du Soleil qui le caractériserait. Eh bien, on s'aperçoit maintenant, et c'est ça la force de toute l'astrophysique contemporaine, que s'il n'y avait que cela, s'il n'y avait pas d'autre source d'énergie que le Soleil, on ne pourrait pas comprendre ce que l'exploration spatiale est en train de nous révéler, l'incroyable diversité des objets planétaires. Si on veut comprendre que la Terre est la Terre, différente de Mars, qui est différente de Vénus, il faut prendre en compte autre chose que le fait que ces objets sont en mouvement autour du Soleil.
Alors, Jean-Pierre Bibring, puisque vous nous emmenez vers l'histoire des sciences et justement cette capacité de calcul qui a toujours un petit peu obsédé l'humanité, de vouloir connaître et préciser la trajectoire des objets célestes, je vous emmène en 1948 pour écouter une archive qui nous présente la théorie de Pierre-Simon Laplace dans sa cosmogonie et qui nous parle du système du monde.
Dans sa cosmogonie, Laplace se borne à chercher l'explication de la naissance du système planétaire lié au Soleil. Il laisse de côté les autres problèmes, ceux, par exemple, qui concernent l'origine et l'évolution des étoiles. Pour établir et justifier sa théorie, il part des faits suivants. Les planètes se déplacent autour du Soleil en restant sensiblement dans un même plan et en tournant toutes dans le même sens, appelé sens direct. Les mouvements des satellites autour des planètes ont aussi lieu dans ce sens. Les orbites de ces différents astres sont voisines de la forme circulaire. Enfin, le Soleil, les planètes et les satellites tournent sur eux-mêmes également dans le sens direct. Les faits que voilà souffrent d'ailleurs un certain nombre d'exceptions, lesquelles n'avaient pas encore été découvertes au temps où Laplace a rédigé sa théorie. Tous les satellites, par exemple, ne tournent pas autour des planètes dans le sens direct. Ces exceptions introduiront de graves fissures dans la théorie. Cette théorie de Laplace, la voici. Il suppose que primitivement, à la place du système solaire, existait une nébuleuse constituée par un gaz très étendue et très diffuse, très chaude aussi, tournant sur elle-même dans le sens direct autour d'un axe passant par son centre. Cette nébuleuse hypothétique ressemble beaucoup à une de ces étoiles géantes dont nous connaissons aujourd'hui les dimensions et la nature, telles qu'Antarès ou Bételgeuse, dont l'atmosphère s'étend précisément sur des espaces comparables à celui qu'occupe le système solaire. Laplace imagine la nébuleuse initiale se contractant peu à peu au fur et à mesure de son refroidissement. Mais en même temps que son volume diminuait, elle devait, d'après les lois de la mécanique, tourner de plus en plus vite. Les particules matérielles les plus éloignées de l'axe de rotation, c'est-à-dire les particules qui étaient situées aux confins de la nébuleuse, dans le plan perpendiculaire à l'axe et passant par le centre, étaient ainsi soumises à une force centrifuge croissante. Sous l'action de cette force centrifuge, la nébuleuse abandonnait autour d'elle une série d'anneaux gazeux, tous en rotation dans le même sens, toujours le sens direct, et disposés concentriquement. Finalement, le noyau central subsistant devenait le Soleil, tandis que les anneaux, par voie de refroidissement et de condensation, allaient se fragmentant pour donner naissance aux planètes. Les petites irrégularités du système solaire, Laplace les explique par les différences de température et de densité qui ont dû inévitablement se produire au sein des anneaux. Quant aux mystérieuses comètes, elles n'ont aucun rapport d'origine avec la nébuleuse primitive, mais elles ont été attirées puis captées par le système solaire tout entier au hasard des rencontres cosmiques, d'où leurs orbites allongées, et cela dans des plans si diversement inclinés sur l'écliptique.
Ah, les fameuses lois de la mécanique, Jean-Pierre Bibring. Alors, on a longtemps cru que cette valse des planètes autour du Soleil était réglée comme du papier à musique, et en fait, pas du tout.
C'est exact, et c'est ça qui est tout à fait remarquable dans l'évolution des sciences, c'est qu'on construit un peu notre représentation d'abord sur des dogmes, et puis quand tout d'un coup vient l'observation, on peut s'apercevoir que ce que l'on pensait n'était pas du tout la réalité. Vous savez, j'aime beaucoup ce texte de Laplace que l'on vient d'écouter et qui est tout à fait fondateur. Il faut réaliser quand même qu'il a plus de 2 siècles. Et il fait suite du reste à un autre texte fait par un philosophe, Kant, le philosophe allemand bien connu. Ils ont écrit des choses un peu semblables, mais sans interaction du tout l'un avec l'autre. Et donc pour proposer l'un comme l'autre que le Soleil et les planètes aient une même origine, ce qu'on appelle la théorie de la nébuleuse, c'est-à-dire un gaz qui, par rotation, par évolution, donne au centre une grande masse qui va devenir l'étoile, le Soleil, et autour vont s'organiser les planètes. C'est très intéressant parce que ce texte-là, qui fonde donc cette théorie de la nébuleuse, est un peu le texte originel de ce qu'on peut appeler un système. C'est-à-dire que l'étoile et les planètes ont une même origine, ça forme un système, ils sont reliés entre eux, ils sont couplés par une origine commune. Ils auraient donc en particulier le même âge. Vous savez que cette théorie qui était basée sur aucune observation réelle, qui était vraiment une représentation que Laplace faisait, qui rendait compte du mouvement, qui pouvait rendre compte, mais il n'y avait rien qui nous disait qu'effectivement le Soleil et les planètes avaient une origine commune, le même âge, la même composition. Et du reste, à l'époque, ils s'opposaient à une toute autre théorie, puis il y en avait plein d'autres, mais une toute autre théorie qui était dont Buffon, le fameux, on connaît bien Buffon, qui a créé le Jardin des Plantes. Ce Buffon qui était excellent dans les sciences de la nature, il s'était aussi risqué sur l'astronomie, où ça a été un petit peu plus aventureux, on va dire. Où lui, sa théorie était tout à fait autre. Il pensait au contraire que les planètes et les étoiles n'avaient pas une même origine entre elles. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les tests catastrophistes. C'est le Soleil qui, par rotation, éjectait de temps en temps de la matière qui allait se recondenser. En d'autres termes, avec une telle théorie, les planètes n'avaient aucune raison d'avoir le même âge. Elles auraient été formé au gré de l'évolution du Soleil tout au long de son histoire. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait aucune idée des âges, de quel était l'âge du système solaire, l'âge du Soleil, l'âge des planètes. Est-ce que c'était des milliers, des millions, des milliards d'années? On n'avait aucun moyen de le savoir. Eh bien, jusqu'à très récemment, en fait, ça date que du retour des échantillons lunaires. Vous voyez, ça date d'une 50aine d'années. On a pu, je pense, définitivement trancher entre les deux hypothèses. Et il se trouve que Laplace et Kant avaient raison. C'est-à-dire que réellement, le Soleil et les étoiles ont une même origine. C'est l'évolution d'un même disque de gaz dans la galaxie qui a donné naissance à cela. Et à partir du moment où on a compris cela, l'idée qui dominait à l'époque de la pluralité des mondes, c'est-à-dire que toutes les étoiles que l'on voit et le Soleil sont de même nature et que ce qui a procédé à l'origine du Soleil et donc des planètes est extraordinairement répandu dans l'univers. Il faut aussi se rappeler qu'à cette époque-là, l'univers était pensé comme statique et infini. Il y avait une infinité d'étoiles, donc il y avait une infinité de planètes et donc même une infinité de terres puisque le même processus allait donner les mêmes effets. Et cette idée que partout, à toute échelle, les mêmes lois opèrent ont tendu, bien sûr, la perche à ceux qui ont dit, puisque c'est partout les mêmes lois qui opèrent et que partout la nébuleuse est l'origine de ce que l'on voit, il doit y avoir des planètes partout équivalentes à ce que l'on a. Eh bien, c'est ça qui a construit effectivement cette réalité, qu'autour des étoiles, il doit y avoir des planètes et que parmi ces planètes, il doit même y en avoir qui hébergent le vivant. Et c'était très confortable puisque c'est cette rupture-là que Copernic et Giordano Bruno ont initiée en reprenant ce concept de pluralité des mondes qui était un concept de l'Antiquité. cité, en fait, mais qui avait été abandonnée par presque deux millénaires de monothéisme, surtout, où il y avait un créateur unique. Là, tout d'un coup, ça redonnait du crédit à cette idée que la Terre n'a rien de particulier, c'est un objet banal. Et ça, ça a conduit à tout un tas de théories sur l'apparition des planètes et la formation des planètes, et entre autres, la différence entre les planètes internes, comme on dit, proches de la Terre, celles qui, comme la Terre, Mercure, Vénus et Mars, sont formées près du Soleil, des petits objets, et ceux plus lointains qui ont accrété du gaz et sont devenus ce qu'on appelle des planètes géantes, dont Jupiter, bien sûr, est la plus massive, mais il y a aussi Saturne, Uranus et Neptune. Et donc, on a pensé que on pouvait expliquer facilement qu'il y ait des planètes internes de petite dimension, des planètes externes d'assez grande dimension, parce qu'elles avaient un cœur où la glace était stable, elle avait pu accréter suffisamment de gaz. Et cette idée que vous disiez, à savoir que une fois que le système a démarré, eh bien, il va perdurer à jamais de la même manière, parce que les lois sont pérennes et que, effectivement, tout étant réglé comme du papier à musique, eh bien, la Terre a toujours été où elle était, Jupiter a toujours été où elle était, etc. Et jusqu'à très récemment, les gens l'ont conçu comme cela, en oubliant, en fait, qu'un très grand mathématicien qui s'appelle Poincaré, il y a plus d'un siècle, c'était le début du XXe siècle, en 1902, a sorti un texte pour montrer qu'en fait, ça n'a pas de sens. Bien sûr que les interactions ont des valeurs différentes, donc comme ce qui fait le mouvement de la Terre autour du Soleil, ces interactions primordiales entre la Terre et le Soleil de gravité, et que les autres sont des petites perturbations, le fait qu'il y ait un petit peu de Mercure, un peu de Jupiter qui tourne, ça va changer les choses, mais très peu, on s'attend à ce que tout soit très stable. Les théories du carreau montrent que non, parce que les systèmes ne sont jamais isolés, qu'il y a toujours des petites perturbations. Au bout d'un certain temps, ces perturbations peuvent donner des mouvements qui peuvent donner des choses extraordinairement différentes. Mais on a laissé ça comme quelque chose de pas très important, puisqu'on avait l'impression que cette pérennité expliquait tout. Jusqu'au jour où, et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a une vingtaine d'années seulement, pour la première fois, on s'est donné les moyens de savoir si réellement il y avait des planètes autour des autres étoiles. À nouveau, l'idée est ancienne. On a entendu Laplace l'a proposé, mais bien avant lui, Épicure l'a proposé. Pour la première fois, on a détecté des planètes autour des autres étoiles en 1995. Vous voyez, c'est pas très ancien, ça fait donc 20 ans. Et tout d'un coup, on s'est aperçu que, oui, effectivement, ces gens avaient raison. Lorsqu'on forme une étoile, nécessairement, on va former des planètes. Il y a vraisemblablement des planètes autour de la quasi-totalité des étoiles que l'on voit. Depuis qu'on a des techniques pour les mettre en évidence, on en a comme ça détecté des milliers. Il y a près de 4000 planètes qui ont été détectées autour d'étoiles proches. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce que l'on détecte ne correspond en rien à ce qu'on imaginait devoir ou pouvoir être détecté. Alors, il faut dire que détecter une planète, c'est très très difficile et qu'on n'a pas encore la capacité de voir une planète directement. Ce sont des techniques qui permettent de mettre en évidence l'influence de la planète sur l'étoile. Le fait qu'une planète gravite autour d'une étoile fait que l'étoile a une petite modification de son propre mouvement. Au lieu de tourner autour de son centre, elle tourne autour d'un centre un peu décalé. Et c'est ça qu'on met en évidence. Donc, ce sont des effets indirects qui ont permis de détecter comme ça plus de, ou de caractériser plus de 4000 planètes aujourd'hui, exoplanètes comme on dit autour des étoiles.
Oui, puis c'est le fameux graphique de Mayer et Queloz en 95, voilà. Justement, qui a permis d'observer les petites variations des étoiles
lointaines.
Du
mouvement, absolument, du mouvement d'une étoile particulière, celle-là, autour d'un objet qui ne serait pas son propre centre, mais un tout petit peu décalé. Mais vous voyez, on s'est dit, cette chose simple, c'est que puisque ce que l'on détecte, c'est l'effet d'une planète sur une étoile, plus la planète va être massive, plus l'effet sera grand. Et c'est vrai. Donc, les premières planètes qu'on a détectées, ce sont des grosses planètes, des planètes équivalentes à notre Jupiter. Mais tout d'un coup, c'est posé un problème. C'est que si vous voulez être sûr que ce que vous détectez, c'est bien l'effet d'une planète sur une étoile, eh bien, l'effet sur l'étoile va être périodique et il va avoir la même période que le mouvement de la planète autour de l'étoile. Or, Jupiter met 10 ans pour faire le tour du Soleil. Si vous voulez voir un effet sur le Soleil, eh bien, il faudrait attendre au moins 20 ans si vous voulez voir arriver deux fois. On n'observe pas une étoile pendant 20 ans d'affilée sans savoir qu'il y a quelque chose d'important. Et donc l'idée c'est, est-ce qu'on serait capable de voir un effet à l'échelle non pas d'années mais de jours, puisqu'en général quand on fait des observations au télescope, c'est au télescope que ça s'est passé, et bien dans un observatoire si on a 5 nuits consécutives d'observation, on est heureux. Mais par définition, si vous voulez voir un phénomène qui a une périodicité de quelques jours, à cause des lois de Kepler qui vous dit que la période à laquelle gravite une planète autour d'une étoile dépend de sa distance. Plus elle est éloignée, plus la période est grande. C'est pour ça que Jupiter, qui est beaucoup plus loin que la Terre, fait le tour du Soleil en 10 ans, alors que la Terre, bien sûr, c'est en un an, et les planètes plus proches en moins que cela. Si vous voulez avoir un phénomène qui se reproduit en quelques jours, ça veut dire que votre planète est extraordinairement proche de l'étoile. Mais quelques jours, c'est vraiment très très proche. Eh bien, il se trouve que la première planète qu'on a mise en évidence, et ensuite beaucoup des suivantes, ce sont des planètes très massives qui sont 10 fois plus proches de leur étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Ce sont des endroits où il fait extraordinairement chaud, et toutes les théories que l'on avait de formation des planètes, et particulièrement des formations des planètes géantes, interdit qu'une planète géante soit formée très près d'une étoile. Parce qu'en fait, pour qu'une planète devienne une planète géante, très gazeuse, il faut qu'elle ait un très gros noyau. Et pour qu'elle ait un gros noyau, il faut qu'elle se forme suffisamment loin pour que la glace soit stable. Parce qu'il y avait tellement de glace disponible qu'à ce moment-là, très rapidement, vous avez pu faire grossir un objet qui peut avoir 5 ou 10 fois la masse de la Terre. Et accrète, réunit tout le gaz de la nébuleuse autour de ce noyau-là avant que le gaz ait disparu. Vous ne pouvez pas le faire très près, vous êtes obligé de le faire très loin. Et là, tout d'un coup, on découvre une planète géante qui, au lieu d'être très loin, est incroyablement près à une distance de l'étoile où il fait tellement chaud que la glace n'est pas stable. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais on n'a jamais vraiment dit dans ces termes-là avant, que ce que l'on observe quand on observe une planète très proche d'une étoile, ce n'est pas l'endroit où la planète s'est formée. La planète s'est formée effectivement très loin de l'étoile, mais entre le moment où elle s'est formée et le moment où on l'observe, eh bien, elle s'est déplacée, elle a migré. Et cette théorie de la migration, qui est sortie des textes, on peut dire, il y a moins de 20 ans, parce qu'il a fallu rendre compte des observations, a absolument tout chamboulé. Parce qu'on s'est aperçu que tout d'un coup, les étoiles que l'on voit, elles ont autour d'elles des planètes qui, au lieu d'être stables sur des orbites réglées comme du papier à musique, se mettent, si on peut dire, à évoluer dans le temps et de loin qu'elles étaient, se rapprocher au cours du temps. Et bien, tout d'un coup, on se dit, mais lorsqu'une planète majeure comme ça, massive, se déplace et se rapproche, est-ce que ça a un effet sur le gaz lui-même, les grains, qui fait qu'éventuellement, on ne pourra pas après former des planètes comme la nôtre? Et effectivement, c'est ce qui se passe. On a réalisé que le fait qu'une planète géante se déplace vers l'intérieur va vider toute la cavité de tout ce qu'elle a. Et si ça la vide, ben, il n'y aura plus de quoi construire après les planètes dont nous sommes faits, c'est-à-dire les planètes internes comme la Terre, etc. D'où cette question, comment se fait-il que chez nous Jupiter soit très loin? Et est-ce que c'est à cela qu'on le doit? Et pourquoi Jupiter ne se serait pas déplacé alors que tous les autres systèmes que l'on voit ont été soumis à cette migration planétaire? Est-ce que c'est le fait que notre système n'est pas migré qui fait que la Terre est devenue la Terre et que la vie a pu démarrer? Ou est-ce que c'est tout à fait autre chose qui s'est passé? Et effectivement, depuis maintenant beaucoup moins de temps, 3-4 ans, c'est une équipe française de l'Observatoire de Nice, dirigé par un monsieur qui s'appelle Alessandro Morbidelli, qui est tout à fait remarquable pour ça, qui a proposé cette idée que dans notre système aussi, il y a eu de la migration, et que Jupiter et Saturne eux-mêmes se sont déplacés très tôt dans notre système, mais d'une manière extraordinairement particulière. Jupiter a commencé à se rapprocher du Soleil. Et effectivement, en se rapprochant du Soleil, il a commencé à vider toute la cavité. Et si Jupiter avait continué son chemin pour aller beaucoup plus près du Soleil, eh bien on ne serait pas là pour en parler parce qu'il n'y aurait plus l'ingrédient majeur, les grains à partir duquel les planètes internes se sont formées. Il se trouve que dans les conditions très particulières de notre système, une autre planète se formait à l'extérieur, Saturne, qui a rattrapé Jupiter. Et qui a rattrapé Jupiter alors que Jupiter était à peu près aux alentours de l'orbite de Mars actuelle, 1,5 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et c'est le rapport de masse entre Jupiter et Saturne qui a décidé de la suite. Si Saturne avait été beaucoup moins massive qu'elle n'était, elle n'aurait pas pu empêcher Jupiter de continuer. Et à nouveau, on ne serait pas là pour en parler. Si Saturne avait été beaucoup plus massive qu'elle n'est, les deux auraient continué leur route vers l'intérieur. Et à nouveau, le disque se serait vidé. Le rapport de masse fait que, et d'ailleurs on le voit par un calcul compliqué, c'est pas intuitif, les deux, après être rentrés dans le système, ont décidé, si on peut dire, de repartir vers l'extérieur et ont laissé un disque en partie vide, mais avec énormément de grains confinés vers l'intérieur. Et c'est la réorganisation, l'accrétion de ce matériau qui a donné naissance aux 4 planètes internes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, dans le rapport de masse que l'on voit aujourd'hui et avec les particularités qui ont fait que chacun a pu suivre un chemin d'évolution tout à fait particulier. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Bien sûr, il faudra la revalider quelque part. Mais ça montre quoi? Ça montre que certes, les processus sont des processus très génériques. Les collisions, les migrations, les attractions gravitationnelles, partout sont les mêmes. Mais partout, elles vont prendre ces processus, tout génériques qu'ils soient, ils peuvent prendre partout des formes particulières. La migration de Jupiter et de Saturne aurait pu être tout à fait différente si le disque avait été un petit peu différent et ça aurait donné naissance à une très grande diversité de chemins d'évolution. En d'autres termes, il n'y a pas de hiérarchie dans les chemins d'évolution. La Terre est devenue la Terre suite à tout un tas de processus qui, à nouveau, en tant que processus, sont parfaitement banaux, génériques, mais qui ont pris des formes tout à fait particulières, tout à fait contingentes, et nous sommes le résultat de cette contingence.
Oui, c'est la fameuse histoire du grand tac qui est toujours vraiment étonnante et c'est ce qui fait vraiment l'originalité de la naissance de la Terre, entre autres. Alors, je ne sais pas, Jean-Pierre Bibring, si vous avez vu le film d'animation Wall-E. Donc, c'est l'histoire, notre planète Terre qui est tellement unique a été transformée en poubelle par l'humanité, une légère extrapolation du chemin que nous suivons actuellement, et à tel point que l'humanité a dû partir chercher, fuir et chercher refuge. Ailleurs.
Bonjour et toutes nos félicitations au commandant. Si vous êtes en train de visionner ce document, c'est que votre évaluateur de végétation extraterrestre, ou la sonde Eve, est revenu de sa mission sur Terre avec un spécimen confirmant l'existence du processus de photosynthèse. Et oui, cela veut dire qu'il est temps de rentrer à la maison.
À la maison ? Alors on rentre ?
À présent que la vie sur Terre est redevenue possible, je vous le dis, nous pouvons lancer l'opération recolonisation.
Commandant, la plante.
Non, attends une petite seconde. Ordinateur, quand ce message est-il arrivé sur l'Axiome ?
Message reçu en l'an 2110.
Ça fait pratiquement 700 ans. Otto, les choses ont changé, on peut rentrer maintenant.
Les ordres sont ne pas rentrer sur Terre.
Mais il est possible d'y vivre maintenant. Il n'y a qu'à voir cette plante, elle est verte et épanouie. C'est la preuve vivante qu'il avait tort.
Rien à voir, commandant.
Quoi ? Si, justement, ça a tout à voir. Nous avons notre maison là-bas, notre maison, Otto. Elle est en danger, tu comprends ? Je ne peux pas rester assis là, les bras croisés. Je ne fais rien de mes journées, comme tous les autres passagers de ce maudit vaisseau. Rien de rien.
À bord de l'Axiome, vous survivrez.
Ça m'intéresse. Je ne laisse pas de survivre ! Je veux vivre !
C'est un extrait de Wall-E. Donc Wall-E, c'est le nom de ce petit robot qui est chargé de retrouver la dernière trace du vivant sur une planète qu'on a vraiment complètement ruinée avec nos pollutions diverses et variées. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on essaye de trouver une nouvelle planète, on a toujours cette sorte de fantasme d'une deuxième Terre qui serait notre refuge pour la fois où on aurait complètement ruiné la nôtre, Jean-Pierre Bibring.
Oui, il y a plusieurs fantasmes là-dedans. Il y a d'abord ce premier fantasme consistant à dire si on trouve des planètes et si on en trouve une qui ressemble à la Terre, avec l'idée que si elle ressemble à la Terre, il y aurait de la vie dessus. Mais on n'est pas capable de définir ce que veut dire ressembler à la Terre. Et à nouveau, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est que cette question de la ressemblance à la Terre, donc de ce qui caractérise finalement la Terre et les planètes, c'est quelque chose qui a énormément changé au cours du temps et qui change encore plus vite aujourd'hui. Pendant très longtemps, ce qui caractérisait la Terre, et donc forcément ce qu'elle porte, c'est sa dimension et sa distance à l'étoile, au Soleil. En d'autres termes, ça suffirait pour expliquer que Mars qui est plus loin a eu un destin différent, que Vénus qui est plus près est un destin différent, etc. Qu'à partir du moment où on connaît ces deux ingrédients-là, ça suffirait. Et puis on s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que ressembler à la Terre, c'est pas simplement avoir la bonne dimension à la bonne distance de l'étoile centrale. Et ça change bien sûr tout à fait cette idée de rechercher quelque chose qui serait semblable à la Terre ailleurs, parce que ça veut dire quoi semblable à la Terre ? Qu'est-ce qu'on essaye de retrouver d'équivalent à la Terre ailleurs ? Et quelque part, dans les gens qui trop souvent, je trouve, disent qu'on peut trouver des extraterrestres, il y a une certaine négligence, pour pas dire plus, de tout ce que justement l'astrophysique contemporaine a montré, de ce qui fait que la Terre est devenue la Terre. C'est une succession de processus où la taille et la distance à l'étoile, bien sûr, jouent un rôle, mais un rôle qui n'est pas forcément et pas certainement dominant. D'autres ingrédients sont intervenus là-dedans. Et si on veut trouver quelque chose d'équivalent à la Terre, il faut aussi trouver comment ces autres ingrédients se sont comportés. Quand on a discuté de la Lune, par exemple, de l'histoire et de la formation de la Lune, on avait mis l'accent sur cette idée que ce qui était intéressant dans l'origine de la Lune, c'est de comprendre qu'elle avait été formée suite à un impact que la Terre avait, enfin quand je dis elle a été formée, elle a vraisemblablement été formée, il n'y a jamais de certitude bien sûr dans ce domaine, mais ce que l'on considère aujourd'hui, c'est le plus probable, c'est que la Terre a subi l'impact par un objet de très grande dimension, de l'ordre de Mars aujourd'hui, dans une géométrie très particulière qui a donné naissance à un disque de matière dans lequel la Lune s'est réaccrétée, et que la Lune a eu une influence majeure sur l'évolution de la Terre en stabilisant ce fameux angle que fait son angle de rotation, 23 degrés, autour duquel la Terre tourne en 24 heures par rapport au plan d'écliptique. Les climats terrestres ont été stables grâce, si on peut dire, à la Lune. Mais quand on connaît la probabilité qu'un impact de la même manière conduise à la formation d'une Lune qui ait cet effet-là, cette probabilité est tellement faible que si ça fait partie des ingrédients importants, la probabilité de trouver ça ailleurs ne se résume pas à trouver une planète qui a la bonne dimension, à la bonne distance. Il faut aussi rajouter la possibilité qu'une Lune équivalente ait pu se former. Et puis il n'y a pas que cela. Ce qui fait la température à la surface de la Terre, qui fait que les océans sont stables comme des grandes entités d'eau, et ils le sont probablement depuis de plus de 4 milliards d'années. Bien sûr que l'énergie provient du Soleil. Mais la température à la surface ne dépend pas que de cela, ça dépend surtout de la composition de notre atmosphère. On parle beaucoup en ce moment des gaz à effet de serre. On sait bien que ces gaz à effet de serre sont majeurs puisqu'ils retiennent l'énergie. Vous savez que s'il n'y avait pas ces gaz à effet de serre, la température à la surface de la Terre serait très inférieure à la température à 0 degré Celsius et on n'aurait pas de liquide, il n'y aurait que de la glace. Et de la glace tellement solide que la probabilité de transformer même une fraction de celle-là en océan serait minime. Eh bien, les gaz à effet de serre, il y en a deux majeurs, il y a la vapeur d'eau et il y a le gaz carbonique. Il faut savoir que le gaz carbonique, il y en a extrêmement peu dans l'atmosphère. D'ailleurs, c'est très étonnant cette histoire de gaz carbonique parce que initialement, il y avait des centaines de barres de gaz carbonique à la surface de la Terre qui ont probablement été éjectées en partie, mais il en a resté des dizaines de barres d'atmosphère qui tous ont disparu. Essentiellement parce que le gaz carbonique se dissout facilement dans l'eau. Parce que les océans existaient au démarrage, l'eau a pu absorber ce gaz carbonique, et on sait qu'il y a de l'eau gazeuse, c'est facile d'absorber du gaz carbonique, qui se dissout et qui précipite s'il y a des cations, en l'occurrence du calcium, et ça donnait les carbonates. Quand vous avez du calcaire, que ce soit au bout de Provence ou en Champagne, vous avez notre réserve de gaz carbonique initiale. C'est une transformation qui a transformé 99,9999% de notre gaz carbonique. Un millionième seulement est recyclé, et il est recyclé par quelque chose où le Soleil n'a rien à voir. C'est la tectonique des plaques, essentiellement, qui recycle cela. Et le moteur de la tectonique de plaques, c'est la radioactivité naturelle de l'uranium, du potassium et du thorium dans le manteau de la Terre. Donc ce qui compte là, c'est la teneur de ces éléments-là qui font qu'on a un recyclage qui fait qu'une toute petite fraction du gaz carbonique initial se retrouve dans notre atmosphère. Eh bien, cette toute petite fraction élève de plus de 30 degrés la température moyenne à la surface de la Terre. Et bien sûr, on passe le 0 degré Celsius et l'eau est stable à l'état liquide. D'ailleurs, il y a tellement peu de gaz carbonique que l'homme, par son activité aujourd'hui, est en train d'en fabriquer autant que la nature en fabrique. Et tout le problème du changement climatique, c'est cela, c'est qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas les dangers et les dégâts que ça peut faire par une élévation trop importante de la teneur en gaz carbonique et donc de la température. Voilà tout ce qu'il faut mettre pour comprendre, et bien sûr c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. J'ai parlé de la migration tout à l'heure, tout à fait particulier de Jupiter et de Saturne, qui ont permis à un moment donné à vider tout, sauf ce qui a permis aux quatre planètes internes de se former. Mais s'il n'y avait eu que ça, il n'y aurait pas eu d'eau sur Terre, parce que l'eau sur Terre, d'où vient-elle? Pas de ce matériau initial proche du Soleil, qui était trop proche du Soleil pour avoir de l'eau dans sa masse. L'eau n'était pas stable, c'était anhydre essentiellement. L'eau est arrivée parce que très tôt dans le système, il y a des grains extérieurs qui sont arrivés dans le système interne. Et tout ce qu'on en a parlé quand on parlait des comètes, ce qui est extraordinaire avec les comètes, c'est qu'on a aujourd'hui sous la main le matériau qui a été celui qui a importé l'eau et les composés carbonés très tôt dans l'histoire de la Terre. Voilà, la Terre, c'est le produit de toute cette évolution. Et à nouveau, cette évolution, elle, c'est un très beau mélange de choses qui sont très générales et qui se trouvent partout dans l'univers, et de choses très contingentes, très spécifiques à notre propre système.
Et précisément, Jean-Pierre Bibring, avec des chercheurs qui partaient avec ce genre d'a priori, c'est-à-dire pour avoir peut-être toujours cette idée du vivant, il faudrait quelque chose comme une Terre à peu près à cette place-là d'un Soleil qui aurait à peu près de l'eau et du carbone, etc. Ils ont eu énormément de surprises avec des objets aussi étonnants que dans notre propre système solaire, les quatre lunes galiléennes de Jupiter, et puis même des objets comme Titan qui sont complètement contre-intuitifs par rapport à ces a priori.
C'est tout à fait, oui, tout ça, ça s'est passé, aussi bien la découverte de Titan, de ce qu'est Titan, que les satellites galiléens. C'est au tout début des années 80 que cette exploration, pour la première fois, a été faite. Il faut voir à nouveau que le spatial, c'est une affaire très récente, c'est pas de la préhistoire.
Et là, on a la pluralité des mondes.
Et là, c'est extraordinaire, parce que quand on a démarré ces missions-là, à nouveau, ce qui dominait, c'était la pluralité des mondes. C'est qu'il y a de la vie partout. Et la première grande mission qui a été faite, comme on en a parlé, c'est la grande mission Viking, pour aller non pas chercher s'il y a de la vie, mais pour caractériser la vie sur Mars, tellement on était convaincu qu'il y a de la vie sur Mars. Et puis on y va et on s'aperçoit, bien sûr, le bien sûr est de trop, qu'il n'y a pas de vie martienne, qu'il y a une évolution chimique, mais on n'a pas besoin de biochimie pour expliquer ce que l'on voit. Il se trouve qu'à l'époque, à la fin des années donc 70, le seul candidat dans le système solaire pour éventuellement héberger de l'eau liquide à la surface, ce qu'on considère d'ailleurs toujours être un des ingrédients majeurs, importants pour que la vie puisse éventuellement émerger, cette eau liquide, on sait qu'il y en a sur la Terre, mais on sait qu'il n'y en a pas sur Mars, qu'il n'y en a pas sur Vénus, qu'il n'y en a pas sur Mercure. Le seul candidat possible où il pourrait y avoir de l'eau à la surface, c'était Titan, qui est le plus gros des satellites de Saturne. Et pourquoi Titan ? Parce qu'au télescope, quand on observe Titan, quand on l'observait, mais encore aujourd'hui, le seul gaz que l'on peut voir dans l'atmosphère, qui apparaît parce qu'il a une signature très importante, c'est le méthane, qui est un gaz à effet de serre important, CH4. Et on se disait la chose suivante, voilà, Titan est très loin du Soleil, donc il est 10 fois plus loin du Soleil que ne l'est la Terre, donc il fait très froid là-bas. Mais s'il y a du méthane, ça bloque tellement le rayonnement infrarouge que ça va élever la température. Et donc, on pourrait être dans un environnement où on est au-dessus du 0 degré Celsius et donc il y aura de l'eau à l'état liquide. S'il y a de l'eau à l'état liquide, comme le méthane s'est fait de carbone, on a tous les ingrédients, il devrait y avoir de la vie sur Titan. Et donc, les États-Unis, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont imaginé cette mission qui s'appelait le Grand Tour, qui est devenue l'émission Voyageur, pour, non pas comme on l'a pensé, aller voir Jupiter ou même Saturne, non, pour faire un survol rapproché de Titan, tellement rapproché que s'il y avait des geysers, on pourrait les voir. Et cette mission a eu lieu. Elle est d'abord passée par Jupiter, essentiellement pour faire un rebond gravitationnel. Et c'est là que, pour la première fois, elle a fait des images des 4 satellites que Galilée avait vus en 1610 avec sa jumelle, gravitant autour de Jupiter, ce qui était fondamental à l'époque parce que ça a permis à Galilée de dire, voilà, le mouvement, non seulement les planètes tournent autour du Soleil, mais le Soleil n'est pas le seul centre du mouvement, ça tourne autour de Jupiter aussi. Donc c'est une propriété générique et c'est par là que Newton, finalement, a fait sa théorie de la gravité universelle. Et tout d'un coup, en approchant de Jupiter, on fait des images de ces objets que l'on savait exister, mais dont on ne savait pas à quoi ils ressemblaient. Et il n'y a pas dans le système solaire 4 objets plus différents que ces 4-là, qui ont à peu près la même distance, la même taille. Ils sont formés au même endroit de notre galaxie. Ils sont à peu près faits de la même composition. Il n'y en a pas 4 plus différents. Et ça pose, bien sûr, d'une manière exemplaire, ce problème des moteurs de l'évolution. Qu'est-ce qui fait que Io, Ganymède, Callisto et Europe soient tellement différents alors qu'ils sont formés au même moment d'un même matériau? Eh bien maintenant, on a à peu près compris ce qui fait l'évolution de ces 4 objets-là. Et voilà la sonde Voyageur qui, après avoir laissé ce paquet-là en montrant la diversité comme vraiment le nouveau paradigme du système solaire, qui fonce vers Saturne et fait effectivement des images rapprochées. Et c'est extraordinaire cette aventure qui a eu lieu en 81, fin 81. Les caméras étaient extraordinaires, elles venaient de former, d'observer donc ces lunes de Jupiter. Elles arrivent à Saturne, on voit des taches rouges sur Saturne, des choses extraordinaires. Les caméras pointent sur Titan, rien, on ne voit rien, tout flou. On s'est dit c'est incroyable, les caméras qui tombent en panne pile au moment où on arrive. Les caméras se repointent vers Saturne, merveilleux. On repointe vers Saturne, vers Titan, plus rien, à nouveau du brouillard. Et tout d'un coup, on réalise que c'est pas que les caméras marchaient pas, c'est qu'il y avait rien à voir parce que Titan est entouré d'un énorme brouillard à couper au couteau et que ce brouillard, il existe parce qu'en fait, l'atmosphère de Titan, contrairement à ce qu'on pensait, n'est pas faite essentiellement de méthane. Il y a bien du méthane, mais le méthane, c'est 1%. Et les 99% restants, c'est de l'azote moléculaire. Mais l'azote n'a pas de transition dans l'infrarouge, donc on ne peut pas avoir sa signature en télescope. Donc, comme on le voyait pas, personne n'a imaginé que ça pouvait exister. Et s'il y a de l'azote, c'est que l'azote est probablement en équilibre avec soit de l'azote liquide, soit un hydrocarbure en équilibre à moins 200 degrés. Donc, il n'y a pas d'eau à l'état liquide à la surface de Titan. Et ça a été un peu le coup de grâce de ce qui a été échafaudé d'abord très longtemps avant jusqu'à l'ère spatiale, la pluralité des mondes, et cette idée qu'effectivement il faudra comprendre le processus d'évolution planétaire avec autre chose, et ce qui ressort aujourd'hui c'est pas la pluralité des mondes mais la diversité des mondes comme le nouveau paradigme, mais avec cette idée supplémentaire que en même temps que la Terre apparaît diverse des autres objets du système solaire, maintenant qu'on a accès non seulement à notre système, mais aux autres systèmes, on s'aperçoit que la même diversité existe, non plus à l'échelle seulement des planètes dans un système, mais des systèmes entre eux. Il n'y a pas de système qui se ressemble. Notre système solaire, c'est pas qu'il est unique par rapport aux autres qui seraient les mêmes, c'est que tous les systèmes sont différents et que ce qui fait la diversité des évolutions planétaires se retrouve aussi au niveau de la diversité de l'évolution des systèmes planétaires.
Alors maintenant, grâce à vous, Jean-Pierre Bibring, on voit un petit peu ce que c'est qu'une planète. On n'a pas défini le mot exoplanète, qui veut tout simplement dire une planète en dehors de notre système solaire. Et il semblerait, si on écoute cette archive qui date de 1985, dans une émission intitulée Atomes et Silex, on dirait que le mot exoplanète n'a pas encore été inventé.
Alors, nous l'avons vu tout à l'heure, la découverte d'une nouvelle planète en dehors de notre système solaire a provoqué beaucoup de réactions dans le milieu de l'astronomie. Aussi, dès l'annonce de cette observation en décembre dernier, nous avons demandé à Jean-Claude Péqueur, professeur d'astrophysique au Collège de France et qui vient de faire paraître chez Fayard un livre sur le Soleil, de nous livrer pour Atomisilex sa réaction, comme ça, à chaud.
Ah, ma réaction, c'est que c'est une très belle manip, mais comme disent les astronomes, on parle de manip. Mais ce n'est pas une surprise, parce que des planètes qu'il y en ait dans l'univers, il y en a certainement non seulement des milliers, mais des millions, et nous commençons seulement à les découvrir, par des moyens d'ailleurs souvent très différents les uns des autres. Par exemple, ce sont des planètes qui rayonnent, ou des systèmes planétaires en formation, qui rayonnent dans le domaine de l'infrarouge. Alors on les observe parce qu'on a perfectionné l'infrarouge. Mais il y a quelques années, un astronome américain, hollandais-américain, Van de Kamp, avait découvert d'autres systèmes planétaires simplement en étudiant la perturbation par les planètes du mouvement apparent de certaines étoiles. Par exemple, l'étoile de Barnard, qui est une des étoiles les plus proches du Soleil, c'est une étoile qui a un et probablement deux compagnons, qui sont des planètes, d'assez grosses planètes. Ce qu'on vient de découvrir maintenant, c'est plutôt un nuage protoplanétaire d'étoiles probablement encore très froides.
Alors 21 années-lumière, ça représente quoi ?
Oh, 21 années-lumière, c'est la banlieue. La lumière, c'est une, la lumière fait 300 000 km en une seconde. Alors le Soleil est à 8 minutes de lumière. Les étoiles les plus proches sont à 3, 4 années-lumière à peu près. Et 21 années-lumière, c'est une étoile très proche.
Alors pour l'instant, cette planète n'existe finalement qu'en image électronique. Alors comment une telle image peut-elle être obtenue ? Et puis de l'image à la réalité ?
Écoutez, toutes les planètes, que ce soit les planètes que l'on voit avec l'œil, comme Jupiter ou Mars, c'est aussi des images, si vous voulez. Alors il faut toujours une certaine dose d'interprétation. L'appareil de mesure ne vous donne de toute façon qu'un aspect, quel qu'il soit, que ce soit la photographie ordinaire ou la photographie infrarouge, comme on est en train de le faire dans ce nouveau domaine de découverte. Et de toute façon, il faut travailler beaucoup pour interpréter les documents. C'est avec la mesure de l'intensité du rayonnement que l'on détermine la température, avec son spectre, qu'on détermine la composition chimique. Il faut suivre l'évolution de cet objet pour savoir si ça tourne vite, si ça tourne pas vite. Donc, bien sûr, non seulement on l'a découvert, mais il faudra l'étudier encore beaucoup avant de la connaître bien. C'est sûr.
Les années 80 ont l'air bien loin. Donc le mot exoplanète n'avait pas été inventé à ce moment-là encore, Jean-Pierre Bibring ?
Écoutez, pour tout vous dire, je ne sais pas exactement qui le premier a prononcé ce mot. D'ailleurs, maintenant les Anglais ont effectivement le même mot. De même que exobiologie et astrobiologie sont des mots relativement récents. Mais effectivement, il n'y a pas de mystère derrière ce que cela signifie. Exoplanète veut simplement dire une planète dans un système extérieur au nôtre. Et c'est pas plus mystérieux que cela.
Par contre, on voit bien qu'on manque de moyens pour aller en savoir un petit peu plus que d'avoir des vagues traces de passage devant des objets plus gros.
Bah, oui, on peut le dire comme ça, mais c'est toujours, je pense que c'est l'inverse qui est extraordinaire, c'est de penser que malgré leur toute petite dimension par rapport à l'étoile à côté duquel ils sont, malgré le fait qu'ils rayonnent presque rien comparé à l'étoile, on commence à avoir des techniques capables de les mettre en évidence. À nouveau, ce sont des techniques indirectes, mais c'est absolument remarquable. Et une grande partie d'ailleurs de ces progrès qui ont été faits grâce au progrès de l'optique ont été faits en France et tout proche d'ici, puisque c'est à l'Observatoire de Haute-Provence la première fois qu'on a pu mettre en évidence par ces mouvement radio des étoiles, le mouvement de planètes autour d'étoiles. Ça se fait bien sûr aussi aux États-Unis, mais en Europe, ça se fait avec du matériel français pour l'essentiel. Donc, non, ce sont de très belles techniques qui sont mises en évidence et qui maintenant vont être mises à grande échelle au Chili auprès des super télescopes que nous avons là-bas. Donc, bien sûr, on n'a pas encore la capacité de voir directement une étoile toute seule et la caractériser. On commence à voir dans certains cas, mais pas de manière majoritaire. Mais on y va. C'est-à-dire qu'à l'échelle des 10-20 prochaines années, les catalogues d'étoiles qui ont des planètes autour va s'enrichir extraordinairement. Et à nouveau, ce dont je suis convaincu, c'est que ce qui va ressortir de tout ça, c'est l'incroyable diversité de ces systèmes qui va nous permettre de comprendre beaucoup mieux ce qui fait la richesse de l'évolution. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à partir des mêmes ingrédients, on arrive à avoir des chemins d'évolution différents. Vous voyez, pendant très longtemps, la Terre était la seule planète auquel on avait accès. Donc planète voulait dire Terre, donc tout ce que les gens ont construit sur ce que c'est qu'une planète, c'était basé sur l'idée qu'on se faisait d'une Terre. Et puis après, tout en étant dans le chemin d'évolution qui du système solaire amène à la Terre, on a eu les moyens avec le spatial d'aller voir ailleurs. Et tout d'un coup, en allant voir les autres chemins d'évolution, on s'est aperçu qu'effectivement, il y a une grande diversité d'évolution qui conduit du système solaire vers les planètes. Mais on était toujours dans notre système. Et maintenant, on est à une étape supérieure où en même temps que l'on fait ça, on a les moyens, alors qu'on est dans un système, d'aller voir les autres systèmes. Et ça, c'est une richesse nouvelle qui s'ouvre à nous. On pourrait dire, mais maintenant, l'étape suivante, ça sera quoi? Ça sera bien sûr de caractériser au mieux ces exoplanètes, mais ça sera toujours à l'intérieur d'une galaxie d'aller voir ailleurs. Et puis on pourra se dire, mais finalement, on est dans un univers. Peut-être qu'aussi, tout ce que l'on pense de l'évolution est lié au fait qu'on est dans un univers et qu'on n'a pas encore accès aux autres. Peut-être qu'un jour, on aura aussi accès, par l'observation, à d'autres univers et qu'on comprendra que depuis le Big Bang, il n'y a pas un chemin d'évolution. Il y a une diversité, une très grande diversité de chemins d'évolution qui ont conduit ici à ce que nous sommes, puisque la Terre procède dans son évolution de 14 milliards d'années d'évolution de l'univers. Bien avant même que notre galaxie se forme, il a fallu que les ingrédients soient là. Puis maintenant, on comprend comment à partir de ces ingrédients, les étoiles, puis les planètes se sont formées. Mais à nouveau, ce qui domine, c'est l'idée de cette diversité que les processus sont génériques, mais les formes peuvent être tellement variées qu'on arrive à rendre compte comme cela de ce que nous sommes, c'est-à-dire des mondes extraordinairement distincts, variés, et c'est ça notre richesse.
Pour les autres univers, j'irai faire leur portage en tout cas. Jean-Pierre Bibring, vous parliez de 4000 objets à peu près identifiés qui portent des noms un peu barbares, hein, des numéros surtout, en référence à Kepler finalement.
Oui, c'est-à-dire qu'une grande partie, mais pas toutes les étoiles, sont détectées, enfin des planètes qui gravitent autour de certaines étoiles, sont détectées lorsqu'elles passent devant certaines des étoiles. Il y a deux satellites autour de la Terre qui l'ont fait. Le premier était un satellite d'ailleurs à dominante française, qui s'appelait Corot, puis les Américains en ont lancé un qui s'appelle Kepler, qui est un télescope plus grand, qui a une moisson beaucoup plus grande. Et donc, il tourne actuellement, donc on est au cœur de cette observation-là. Donc effectivement, ce sont des numéros de catalogue. Mais il faut que vous réalisiez que chaque observation dans l'espace n'est validée que si elle est effectivement confirmée par une observation au sol avec les grands télescopes que nous avons actuellement qui sont capables de dire qu'effectivement ce que l'on voit est bien une planète en orbite autour d'une étoile. C'est-à-dire que même cette technique des transits qui fait que une planète passant devant une étoile obscurcit un petit peu cette étoile et ça comme en évidence, on vérifie au sol que cette même étoile a bien un mouvement perturbé par la planète en question. Et donc c'est cette double validation qui donne ces catalogues qui s'enrichissent quasiment tous les jours, en tout cas toutes les semaines. Il y a des sites pour cela et c'est absolument une science émergente tout à fait fondamentale. Je suis sûr que les nouvelles générations vont se régaler avec ce qui est en train de se passer.
Pour l'instant, on peut simplement détecter leur présence et on a très peu de précision.
On a plus que cela. On a la présence. Selon la technique, on peut avoir la masse, la période. On commence à avoir des indications sur la température qu'il peut y avoir à la surface parce qu'à partir de leurs paramètres orbitaux, on peut savoir un petit peu où ils en sont. Et puis, on commence à être capable de mesurer des constituants atmosphériques. Ça sera la grande aventure des prochaines années que de savoir si autour de certains d'entre eux, il y a des atmosphères, de quoi sont faites ces atmosphères et est-ce que dans les gaz atmosphériques, on peut mettre en évidence certains des traceurs de l'évolution qui est à la surface, pas nécessairement d'ailleurs des traceurs de l'évolution vers le vivant, mais au moins de contraindre un petit peu ce qu'est la physique de ce qui se passe entre le sol et l'atmosphère.
C'est vrai que ça nous promet beaucoup de surprises à venir. En tout cas, je vous remercie infiniment Jean-Pierre Bibring de nous avoir servi de guide pour cette aventure spatiale. Une série d'émissions qui touche à sa fin, c'était Explorer l'espace, une série de Lydia Benitzrak, réalisée par Luc Jean Reynaud, à la technique Olivier Dupré. Merci pour la complicité d'Annie Lozana et Marine Decamp pour les Archivina et d'Arthur Béranger pour le site internet où vous trouverez de quoi prolonger un peu le voyage. La 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 la